Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure d'aller rejoindre mes éminents collègues du bureau parlementaire, Nicolas Lachance et Marc-André Gagnon. Bonjour.
Bonjour. Salut.
Grosse semaine encore ici à Québec, un peu moins grosse que les semaines précédentes, puis sûrement plus grosse que la semaine qui s'en vient, parce que ça va être une semaine de Pâques bien tranquille. Mais pour finir cette semaine-là, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que François Legault veut encore parler à la presse parlementaire? On commence par toi, Nico.
Ben, ça fait deux semaines d'affilée que les seules fois où il aura parlé aux médias, ça sera à l'extérieur. Ça aurait été à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'il craint les correspondants parlementaires? Je ne sais pas. Mais il a l'air de les éviter. Même à l'Assemblée nationale, les seuls, Marc-André pourra en témoigner, là, mais j'étais sur place hier lorsqu'il a parlé de la victoire du Canadien contre l'Avalanche au lieu de commenter l'actualité.
Ça promet sur la taille de l'État.
Exactement. Donc, il évite du moins les sujets et les questions des journalistes.
Marc-André, là-dessus, tu étais là toi aussi dans les couloirs cette semaine?
Oui, puis on se souvient qu'en début d'année, François Legault nous avait dit aux journalistes, mais aussi, surtout à ses députés, qu'il souhaitait éviter les distractions en 2024. Ben, j'ai comme l'impression que les distractions, ça semble être synonyme pour François Legault des correspondants parlementaires.
Ah oui?
Ça fait plusieurs semaines que, bon, il se limite à répondre aux questions des journalistes une seule fois par semaine, mais à l'extérieur de l'enceinte parlementaire, parfois dans sa circonscription ou encore à d'autres endroits. Puis hier, comme Nicolas racontait un peu, effectivement, lorsque des collègues l'ont questionné sur sa promesse de réduire la taille de l'État, ben il nous a parlé de hockey. C'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai tweeté sa réponse sur X. Et c'est incroyable, Antoine, le nombre de commentaires, de réactions que les gens ont eu à ça.
Ah ben là, Marc-André, à chaque fois qu'on écrit quelque chose sur X, on reçoit un char de... Je l'ai pas dit.
Oui, mais là, c'est pas moi qui reçois les insultes, c'est François Legault.
Ah oui.
En ce sens où, on voit les chiffres aussi, là, le nombre d'impressions qu'un tweet peut avoir. Et ce tweet-là est pratiquement viral dans une certaine mesure. Puis vraiment, les gens trouvent que François Legault agir de cette façon-là, c'est de l'arrogance. Alors, je ne crois pas que ça serve sa cause.
Et il n'est pas le seul élu de la CAQ à éviter... les correspondants parlementaires. Là, on peut parler de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui longe les murs. Elle est pratiquement absente depuis le début de l'année. C'est à se demander si elle a encore le goût de venir défendre les intérêts du gouvernement. C'est elle qui était toujours amenée en avant-scène lorsqu'il y avait des débats publics, lorsque le gouvernement avait besoin de quelqu'un pour venir défendre un projet de loi, venir défendre un geste que le gouvernement avait posé, qui peut-être pouvait porter à confusion ou qui pour laquelle il y avait énormément de critiques, elle n'y est plus. Cette semaine, c'est d'ailleurs monsieur Simon-Jolin Barrette qui est venu commenter l'actualité. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu se présenter de la sorte devant les médias pour un peu, on connaît le personnage, être capable d'éviter les pièges. Il est très bon pour éviter les pièges. Est-ce qu'on a décidé de retirer Mme Guilbeault? Dernièrement, c'était peut-être un petit peu plus difficile face à la presse parlementaire. Elle qui est une experte des communications, il faut quand même le souligner.
Je pense que ça va dans la trame d'essayer d'éviter les distractions. Et une de ces distractions, c'est le troisième lien. Alors,
Oui, ça, c'est sûr. On va en reparler tout à l'heure. Mais justement, Geneviève Guilbeault, Qu'est-ce qui se passe avec elle exactement, selon vous, Nicolas?
Ben, certains diront qu'elle travaille très fort sur son projet de loi pour créer l'Agence des transports. Ça reste que la bonne humeur qu'on lui connaît dans les corridors, lorsqu'elle croise des gens, est disparue. Donc, c'est quand même quelqu'un qui laisse personne indifférent lorsqu'elle se présente devant les gens. Elle a habituellement une personnalité très flamboyante. Elle s'est dissous présentement. Elle est bête avec les gens lorsqu'on lui pose des questions, avec les journalistes lorsqu'on lui pose des questions. Elle refuse de répondre aux questions. Elle continue son chemin. Elle faisait semblant d'avoir pas entendu les questions. C'est pas son genre.
Simon Jolin Barrette, lui, dépose projet de loi après projet de loi.
Et c'est quand, faut quand même lui donner. Les réussites de la CAQ sont signées Simon Jolin Barrette depuis le début de ce mandat-là, même du précédent mandat.
Marc-André? Et par ailleurs, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Geneviève Guilbeault, comme ministre des Transports, a un parcours très difficile. C'est quand même elle qui a enterré la promesse du troisième lien routier il y a presque un an, jour pour jour. Promesse que finalement François Legault a déterrée au lendemain d'une défaite difficile dans Jean Talon. On se rappellera de Geneviève Guilbeault qui joue à un jeu, il y a un an, lors de l'exercice des crédits budgétaires. Combien d'autres épisodes difficiles, ces images d'elle qui n'étaient pas attachées, qui lui ont fait mal, etc. Et on pourrait continuer comme ça, la liste est longue. Moi, je pense que s'il y a un remaniement, je serais étonné que Mme Guilbeault reste au transport, et je me demande si elle souhaite y rester. Parce que on avait entendu qu'après l'élection, la réélection de la CAQ, que c'était Mme Guilbeault qui avait démontré un intérêt pour les transports. Je suis pas certain que l'intérêt soit encore aussi grand comme Nicolas le disait. Nicolas,
mais dans son bulletin, ça serait un échec parce que Mme Guilbeault voulait un portefeuille important qui pouvait peut-être lui faire monter les échelons au sein de ce gouvernement-là. Donc, si elle se fait retirer le transport à peine, c'est quoi, 2 ans, même pas, à la tête du ministère des Transports, et ça serait encore un autre échec à la tête du ministère des Transports, sauf François Bonnardel, là, qui aura fait un mandat complet, là. On s'entend que ça passe un après les autres, les uns après les autres
Même sous les libéraux, ça avait été difficile, mais pour parler transport, à la SAC, il y a un projet de reconnaissance faciale. T'en avais parlé il y a quelques mois, Nicolas, ça avait été tout de suite enterré parce que c'était coïncident avec l'histoire de Saclic. C'est un autre projet informatique qui fonctionnait mal. C'est justement Geneviève Guilbeault qui avait tué ça dans l'œuf. As-tu un commentaire de Geneviève Guilbeault sur la reconnaissance faciale?
Non, et dans les corridors, on m'a dit que ce n'était pas son dossier. Et encore une fois, on le remet entre les mains de M. Éric Kerr, le ministre de la Cybersécurité du Numérique. Donc, la SAAQ dit travailler en partenariat avec le ministère de M. Kerr. M. Kerr argumente que ce n'est pas un projet de reconnaissance faciale, donc c'est un projet de documentation, faire le tri des photos. Mais oui, admet qu'on va utiliser une technologie de reconnaissance faciale pour faire le tri des photos. Et c'est là que ça pose des questions. Et la commission d'accès à l'information demande un débat public depuis 2021. Dans un communiqué hier, a réitéré qu'il demandait encore ce débat public-là et que s'il y a, et seulement s'il y a consensus, ça prendra il faudra légiférer sur la question. C'est quelque chose qui, pour eux, est très important. C'est une technologie qui est très invasive.
On a eu l'impression que c'était une solution qui cherchait un problème, parce que qu'est-ce qu'on veut régler comme problème exactement avec ça?
On soutient qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait plus de fraude, plus de doublons dans la banque de photos du gouvernement, mais ça ouvre la porte aussi, lorsqu'on intègre cette technologie-là, à la pousser encore plus loin, peut-être pour l'identité numérique et tout. Donc, est-ce que la commission d'accès à l'information aura gain de cause ou finalement le gouvernement, la SAAQ, qui a la légitimité de ce dossier-là, ira sans poser la question, sans commission. Là, les libéraux ont demandé une commission parlementaire sur le sujet. Il faudra voir s'il y en aura une.
Est-ce qu'on se compte pas des parts? J'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, puis ça a été une question de Marc-André cette semaine en point de presse. Est-ce qu'on se compte pas un peu des parts dans le sens où, moi, mon iPhone, là, il reconnaît mon visage? Ouais. On dirait qu'on est tout le temps ultra sévère avec l'État qui veut à faire avancer la technologie, et alors qu'on donne tout aux géants du web, même les traits de notre visage sans poser aucune question. Marc-André, là-dessus?
Ben, c'est exactement le point que j'ai fait remarquer lors des points de presse des partis d'opposition cette semaine. On est plusieurs là, à ouvrir nos iPhones avec la reconnaissance faciale. Donc, la technologie, elle est là, elle existe. Par ailleurs, je peux comprendre les inquiétudes que les gens ont. Ça demeure très invasif, hein, Nicolas, comme la Commission d'accès à l'information le dit. Et évidemment, c'est parce que ce que les gens ont en tête, c'est l'échec de la SAAQ avec sa clique. Ça fait peur aux gens. Donc, c'est normal que les électeurs, les partis d'opposition, soient pas en confiance lorsqu'on parle de la SAQ qui doit amener ce projet-là. Mais dans les cartons d'Éric Kerr, hein, il y a de développer toute cette identité numérique. Moi, mon portefeuille est épais comme ça de cartes tellement que je traîne plus tout avec moi. J'ai quatre cartes d'hôpital différentes, même si tous ces hôpitaux appartiennent au CHU. On a un permis de conduire, tout ça. Bon, tu sais, il est grand temps qu'on ait une identité numérique au Québec, mais c'est correct de prendre le temps de le faire comme
mais
le monde.
Concernant la
reconnaissance
faciale,
je pense que Nicolas a une différence, une distinction à faire entre le iPhone. Il me l'a fait l'autre jour dans le bureau, puis j'ai trouvé ça instructif.
C'est parce que c'est vrai que la technologie existe. Après ça, c'est le stockage. Donc là, on parle d'une banque de photos dans un stockage de la SAQ. Lorsqu'on ouvre notre iPhone, le seul stockage de notre reconnaissance faciale est sur notre propre appareil. Elle est là, la différence. C'est que le stockage de ta reconnaissance faciale, Marc-André, elle n'est pas dans les... On sait pas, là, mais bref, c'est quand même ce qui est écrit dans les petits caractères. Elle n'est pas dans la banque de stockage de Apple. Elle est sur ton appareil à toi. Elle est là, la différence. Et c'est pour ça que même l'ex-sous-ministre à la cybersécurité, Steve Waterhouse, demande un débat public sur la question de la reconnaissance faciale au gouvernement pour qu'on comprenne le processus derrière le stockage de ces données-là qui appartiennent à chacun des Québécois. C'est principalement ça le point qui accroche.
Je veux quand même te poser la question, Nicolas. Est-ce qu'on n'a pas le pied sur le frein à cause des renseignements personnels depuis des années, ce qui fait qu'on se retrouve encore à envoyer des fax dans les hôpitaux? Peut-être tu vas me dire que c'est une question spécieuse, mais je trouve que dans l'État québécois, on a tellement peur de cette question-là qu'il me semble qu'on prend du retard.
Le retard, il est là, mais je pense pas qu'il soit là en raison des craintes des Québécois envers certaines technologies.
C'est pas un excès de zèle?
Non, c'est le problème est qu'on a tellement mis dans des boîtes nos données, dans tellement d'endroits différents, dans tellement d'organisations, organismes, et pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, ces organisations-là ne pouvaient même pas s'échanger ces données-là entre elles. Donc, maintenant, on peut faire ça. Donc, on devrait être capable d'accélérer, mais il faut tout numériser, il faut tout stocker de façon sécuritaire. C'est le transfert des données existantes vers les nouvelles technologies qui est d'une complexité totale. Tout le monde donne souvent l'exemple de l'Estonie. L'Estonie, là, ils sont en avance, ils ont une carte d'identité numérique qui scanne, qui sert à tout. C'est exceptionnel. Mais comment ça, ils ont réussi à le faire aussi rapidement? Ouais. C'est la chute du mur. Donc, eux, ils sont sortis de l'ex-URSS, là. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Ils recommençaient à zéro. C'est sûr que quand tu commences à zéro, tout va bien, tout est simple, tout est facile.
Nous, on est prisonniers de nos
tonnes de vieux systèmes qui fonctionnent mal, qui communiquent pas entre eux. Il est là, le nœud.
Marc-André, on a encore parlé du troisième lien cette semaine.
Ah oui, c'était une autre semaine importante, un autre chapitre.
Pourquoi on a parlé du troisième lien? Raconte-nous ça.
Ouais. Bernard Drainville, qui est, bon, bien sûr, ministre de l'Éducation, mais qui est aussi ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, donc la rive sud de Québec, la grande région de Lévis, et il était l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis.
T'étais là?
Oui, donc j'y ai assisté, bien sûr.
C'était un dîner. As-tu mangé?
Non, parce qu'il fallait que je m'inscrive le jeudi, et ben souvent dans la vie des médias, c'est que les assignations se font le matin même, alors j'ai écrit à la Chambre de commerce, ben je vais être là ce midi, puis là on m'a tout de suite prévenu, ah mais là malheureusement, vous aurez pas de lunch, vos collègues, oui, mais vous êtes pas inscrits, fait que je lui ai dit, alors c'est correct, je vais emmener mon McDo, puis là on m'a dit que j'avais pas le droit, évidemment c'était une blague. Alors ça c'est pour la petite anecdote.
Oui, on aime ça.
Mais... Mais sinon, donc Bernard Drainville qui prononce un discours, c'était bon, une façon pour lui de faire le point sur les engagements qui étaient sur son bilan dans sa circonscription de Lévis. Puis je disais qu'il est ministre, mais il était aussi député hein, de Lévis. Puis après son petit laïus, ben il y avait une période de questions-réponses avec la Chambre de commerce et évidemment qu'il il a été question du troisième lien puisque sur la région de Québec.
Il a dit que la CDPQ infra allait sûrement proposer un troisième lien autoroutier.
Pas sûrement. Il a dit c'est acquis, mesdames, messieurs, que dans les recommandations, dans les solutions que la Caisse de dépôt et placement va proposer en juin, puisque son rapport est attendu en juin, il y aura un, je cite, un nouveau lien interrive. Et par la suite, lorsqu'il parlait, pour lui, un nouveau lien interrive, c'était pas un lien de transport collectif comme celui que Mme Guilbeault a présenté il y a un an, presque jour pour jour, là. C'était vraiment un nouveau lien routier, pont, tunnel, on sait pas. Et après, lors d'une mêlée de presse, il a échangé avec les journalistes, puis il disait « Ah, mais attention, là, il y a rien de nouveau dans ce que je vous ai dit, parce que dans le mandat, la lettre mandat qui a été confiée à CDPQ Infra, il est question d'un troisième lien. » Mais comme je lui ai fait tout de suite remarquer, je
me tirais la sauce un peu, mémoire, hein?
Ouais. Ce qui est écrit dans le mandat, c'est « La Caisse de dépôt et placement Québec doit proposer des solutions pour un réseau structurant dans la ville de Québec et des solutions pour améliorer la mobilité entre les deux rives. Nulle part, il est écrit, vous devez nous recommander un nouveau lien routier. » Alors, évidemment, tout ça, ça a fait de nombreuses... ça a amené de nombreuses réactions. Et après, Bernard Drainville a essayé de corriger le tir en disant « Je voulais pas dicter quoi que ce soit. » Et Mme Guilbeault, la ministre des Transports, a dû nier toute ingérence
Nicolas,
du gouvernement.
Toi qui as déjà écrit sur la CDPQ Infra qui se penche là-dessus, ça a dû mal réagir au sein de la CDPQ Infra cette semaine.
Si on se fie à certaines informations qu'on a eues par le passé, il y a peut-être certains participants au bien commun, au portefeuille des Québécois qui commencent à trouver que les déposants, par exemple, qui commencent à avoir beaucoup d'ingérence politique, alors que l'objectif de la Caisse, on se rappelle, c'est de faire fructifier la retraite des fonctionnaires et des Québécois. Et certains commencent à trouver que c'est particulier et commencent à craindre qu'on pense plus aux bons intérêts de la Caisse de dépôt et de placement.
Marc-André, il y a eu des sondages aussi.
Juste là-dessus, très rapidement, Antoine.
Ouais.
C'est le troisième lien, là, c'est éminemment politique.
Ouais.
C'est la promesse de la CAQ que les libéraux ont décidé de promettre eux aussi à un moment donné. Ça restera toujours éminemment politique. Alors, un parti qui le promet doit avoir le courage de le faire. Et on prend le singe, on le met sur les épaules de la Caisse Placement Québec. C'est sûr que ça donne l'impression qu'on essaie de politiser la Caisse.
Rapidement, Marc-André, le Parti québécois a dit qu'il n'était pas sûr non plus de ce qu'il allait proposer là, pour ça. Là, hein?
Aujourd'hui, oui. Juste avant de quitter pour le congé de Pâques, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, sans promettre de lien routier, que vraisemblablement, il devra ajuster la mouture de son projet de troisième lien d'ici 2026, dépendamment de ce que CDPQ Infra va proposer.
C'est comme Nicolas le seuil d'immigration, il faut ajuster le seuil d'immigration aussi. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon a beaucoup de choses à ajuster, là, semblerait-il.
Il est en période d'ajustement.
Pour l'instant, leur proposition, c'est toujours celle de 2022, là, c'est-à-dire un lien intérêt dans lequel il y aurait un train léger, donc uniquement de transport collectif. Mais on sent qu'il ne veut pas s'attacher les mains tout de suite pour 2026, qu'il pourrait ajuster le projet, dépendamment d'où la CAQ en sera rendue à la fin du mandat en cours. Là.
Quand on monte dans les sondages, il faut s'ajuster.
Parlant sondage, et là, il ne faudra pas faire 10 minutes là-dessus, là, mais le Parti conservateur en a déposé un. Est-ce que c'est crédible, Marc-André Gagnon?
Bien, dans leur sondage qu'ils ont commandé à la firme Léger, qui est une firme crédible, là, sans aucun doute.
Oui, on l'aime, nous autres, à Québécois. Là.
Mais évidemment, comme client, parce que c'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui a commandé le sondage, ils ont un mot à dire là, sur les questions.
OK.
Québec solidaire a reproché, s'est attaqué à la méthodologie empruntée dans ce sondage sur le troisième lien. Puis d'ailleurs, Éric Duhaime a dit « Attendez, c'est pas moi qui choisis les questions. » sauf celle sur le pont de l'Orléans.
Okay.
Et le sondage, grosso modo, si je résume, c'est pas de demander aux gens êtes-vous pour ou contre un troisième lien. C'est un peu comme la CAQ l'a fait dans sa consultation en ligne, qui n'est pas un sondage. Oui. Est-ce que vous croyez que telle proposition permettrait d'améliorer la mobilité dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches? À Québec, là, un lien qui passerait dans le secteur de l'île d'Orléans, comme ce que les conservateurs proposent, t'as 62 % des gens qui disent que ce serait que ça permettrait d'améliorer la situation. Puis un lien additionnel de transport routier qui inclurait du transport en commun, 70 % des gens de la grande région de Québec pensent que ça permettrait d'améliorer la situation. Mais après, lorsque l'on le qu'on regarde ça de plus près, c'est 40 % qui disent des gens qui disent certainement que ça améliorerait la situation, puis un 30 % qui disent probablement. Donc c'est pas très solide.
Hey, merci beaucoup, faut se laisser là.
Merci.
C'est toujours très agréable, les amis du bureau parlementaire Nicolas Lachance et Marc-André Gagnon.
À bientôt.
Bon congé de
Pâques. Bon week-end.
Merci, ben oui, toi aussi.